Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Fanny Richer, Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Nicolas Ignatieff, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son, Pierrick Monsigny. Marisol Touraine n'ayant manifestement pas réussi à convaincre le corps médical des bienfaits de sa loi, c'est Manuel Valls qui s'y colle désormais. Le Premier ministre recevra demain à Matignon les médecins libéraux et les internes, à charge pour lui de les convaincre que la loi santé, en discussion en commission à l'Assemblée nationale depuis hier, ne se fera pas à leur détriment. Pour l'heure, c'est la suspicion qui domine. Dimanche à Paris, ils étaient entre 19 000 et 40 000 à manifester contre le projet de loi et contre une de ses principales dispositions, en tout cas une des plus commentées, la généralisation du tiers payant d'ici 2017. Beaucoup de médecins n'en veulent pas, persuadés qu'un tel système se traduira par une surcharge administrative au détriment de leur cœur de métier. Pour autant, il ne faudrait pas résumer la grogne actuelle à ce seul sujet. Si les médecins, en particulier généralistes, étaient si nombreux dimanche, s'il y avait autant de jeunes et de futurs praticiens, c'est sans doute aussi parce que le malaise est plus profond. L'homme de l'art, de plus en plus souvent d'ailleurs une femme, n'a plus le même statut qu'autrefois. L'accès simplifié à l'information médicale contribue à désacraliser une profession qui vit toujours dans l'idée, voire l'illusion de sa liberté. D'où peut-être un décalage avec ce qu'elle représente vraiment aujourd'hui dans la société. Alors les médecins généralistes ont-ils perdu le sens de leur mission? C'est notre sujet du jour. Voilà, l'idée ce soir, c'est de sortir du débat stricto sensu sur la généralisation du tiers payant pour voir en quoi son rejet significatif d'un malaise plus profond et peut-être aussi d'un décalage, donc, comme je le disais, entre le rôle que pensent occuper les médecins et la place que nous leur donnons, nous en tant que collectivité. Pour en discuter ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Christian Lehmann. Bonsoir.
Bonsoir.
Médecin généraliste dans les Yvelines, vous exercez depuis une trentaine d'années. Vous avez manifesté dimanche, je crois.
Oui, tout à fait.
Vous tenez un blog, En attendant H5N1, qui rappelle quelques souvenirs, pas si anciens. On vous doit, entre autres publications, parce que vous êtes romancier, mais vous avez également publié vos confessions d'un médecin généraliste. Patient, si vous saviez, c'est édité au Point. Pour discuter avec vous, un collègue, plutôt un ancien collègue, mais quand on est médecin, on l'est pour la vie, Didier Ménard, bonsoir.
Bonsoir.
Médecin généraliste à la retraite, vous avez exercé à Saint-Denis. Vous avez du mal d'ailleurs à trouver des successeurs lorsque vous avez abandonné le métier?
Non, pas du tout. Nous avons construit un bon projet et ce projet a attiré 5 jeunes médecins qui sont venus s'installer à la Cité des Francs-Moisins. Mais c'est une démarche collective.
Donc c'est quoi? C'est un centre de santé?
Alors c'est un centre de santé communautaire. C'est une association qui travaille sur le quartier, sur la Cité Francs-Moisins depuis 20 ans, qui a pris l'initiative au départ des médecins de la Cité, avec l'accord de tout le monde, des autres médecins et des autres professionnels libéraux, de monter un centre de soins. Au départ, c'est d'abord le projet, qui était un projet collectif. Et après, les jeunes médecins ont souhaité être salariés. Et donc, comme l'essentiel était qu'ils viennent travailler, nous avons accepté cette demande d'être salariés. Et donc, c'est devenu un centre de santé, alors qu'au départ, ça a été plutôt prévu une maison de santé. Mais à la demande des jeunes médecins, on a pris cet objectif.
Ouais, c'est une façon d'aborder le métier dont on aura sans doute l'occasion de reparler, y compris avec une troisième médecin qui, elle, est au téléphone. Il s'agit de Jessica Guibert. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, ce que vient de nous décrire Didier Ménard, c'est quelque chose que vous connaissez bien, vous, puisque vous êtes médecin généraliste remplaçante et vous travaillez actuellement dans un centre de santé, justement, à Grenoble. Jeune médecin, puisque vous avez terminé votre internat au mois de novembre dernier. On vous avait invité en 2011, fin 2011, lors d'une émission qu'on avait consacrée, une sorte d'actualité vue par les professions de santé. À l'époque, vous étiez en 7e année de médecine, en première année d'internat. Vous travailliez à l'époque aux urgences de Chambéry. On s'est dit, tiens, ça serait intéressant de savoir, presque 4 ans plus tard, ce que devient Jessica Guibert. Vous allez nous le dire dans un instant, une fois que j'aurai présenté notre 4e et dernière invité, Stanis Pérez, bonsoir.
Bonsoir.
Historien, vous enseignez l'histoire de la santé à l'Université Paris 13. Vous êtes membre de la Société internationale d'histoire de la médecine. Votre Histoire des médecins, publiée aux éditions Perrin, sort demain, Histoire des médecins, artisans et artistes de la santé de l'Antiquité à nos jours. Vous avez l'air surpris quand je dis que ça sort demain, non ? Confirmé ?
Oui, je confirme, ça sort demain.
Voilà, donc il faut attendre encore quelques heures pour, pouvoir le lire. Alors l'idée ce soir, c'est d'examiner le malaise, semble-t-il, puisqu'il y a un malaise parmi les médecins généralistes. Alors, malaise, si on regarde par exemple la rémunération moyenne qui est celle des généralistes, on peut lire que c'est 6 800 € net par mois en moyenne. Est-ce qu'on peut dire que c'est un malaise d'enfant gâté, Didier Ménard ?
Il y a probablement un décalage entre la perception qu'on a aujourd'hui de l'expression du mécontentement des médecins et cette réalité-là. Mais je crois qu'il faut dépasser très rapidement cet aspect-là pour pas tomber d'un peu dans la caricature. Certains diront qu'effectivement, c'est bien au-delà du salaire moyen d'un Français. D'autres vous diront oui, mais ramener au taux horaire des heures de travail, voilà, c'est un débat. Voilà, c'est à mon avis pas tout à fait comme ça qu'il faut rentrer dans le débat. La question est la question du système de santé et plus que ça. Maintenant, effectivement,
si c'est que du côté des patients, puisque c'est quand même, il y a quand même une majorité
bien sûr.
Patients sans doute qui nous écoutent ce soir. On dit bah voilà, 6 800 € net moyen, c'est quand même pas si mal. Cela dit, ça cache un certain nombre de disparités. Jessica Guibert, comme jeune médecin, j'imagine que vous n'êtes pas tout à fait encore à ce niveau-là de rémunération. D'autant que vous êtes salarié, ça change peut-être des choses là aussi.
Alors, si, moi, je suis très bien payée. Hein. moi, je fais des remplacements, donc je suis payée en fait comme un médecin généraliste normal. Je suis salariée, donc je suis effectivement dans le centre de santé où je suis peut-être un peu moins bien payée qu'un médecin généraliste libéral. Mais enfin, moi, je travaille 16 heures par semaine et je gagne 1 500 €. Donc, je dans la population. Je vois pas beaucoup de gens qui pourraient, qui auraient la possibilité de faire comme ça, quoi.
Donc vous vous sentez quoi, comme privilégié, c'est le terme qui pourrait vous convenir.
Oui. Après, je suis quand même d'accord avec Didier Ménard sur le fait que je pense qu'effectivement il y a un vrai problème, mais plus dans le contenu du métier de médecin généraliste et effectivement que cette question du salaire, finalement, elle est pas très pertinente pour analyser la situation.
Bon alors, si elle n'est pas pertinente, est-ce que la façon dont les médecins sont rémunérés, non pas en termes de niveau, mais en tout cas le canal qui est utilisé, vous paraîtra un peu plus pertinent ? Là, je reste quand même toujours du côté des patients. Si on a voulu faire l'émission, ce n'est pas seulement pour entendre des médecins qui parlent de leur malaise, c'est aussi pour peut-être leur dire, attendez, vous avez aussi une forme de responsabilité et des devoirs au regard de la société et de la collectivité qui vous paye vos études et qui vous rémunère, Christian Lehmann.
Vous savez, ce poncif me fatigue à un point que vous n'imaginez pas. Parce que si les études sont payées et qu'ensuite les mecs sont blindés de thunes, mais il n'y a qu'une chose à faire, on se lève tous et on va s'inscrire en première année d'études médicales.
Vous savez que c'est un poncif qu'utilise votre collègue Didier Ménard dans un récent article pour la revue Pratique. Il parle de l'illusion que parce qu'on est médecin, on n'a pas de compte à rendre au pays, alors que celui-ci finance les études et rembourse les consultations et les médicaments.
Mais je redis que je considère que c'est un poncif. Je ne sais pas où vous tirez les 6 800 €. Moi, je travaille depuis 30 ans.
Ministère de la Santé.
D'accord, hein. Ok, oui. Oui.
Enfin, c'est une moyenne, je le rappelle.
Excusez-moi, Marisol Touraine explique que la consultation est à 31 € quand elle est à 23, donc les données du ministère de la Santé, je vais avoir un petit peu de mal avec. Moi, j'ai absolument conscience de mon rôle vis-à-vis des patients et vis-à-vis de la population. Je suis beaucoup plus en doute que le gouvernement actuel et l'État en général s'intéressent réellement à la santé publique. J'ai vu des gouvernements précédents de droite dealer avec certains syndicats médicaux réactionnaires des petits arrangements sur la tête des patients et sur la tête des médecins. C'est comme ça qu'on a perdu l'option médecin référent, qui était une des premières tentatives de paiement à la capitation, de sortie du paiement à l'acte. Ça a été rayé d'un trait de plume par les syndicats les plus réactionnaires et par un directeur de la Sécu qui, comme par hasard, venait des assurances privées AXA. Et aujourd'hui, j'ai un gouvernement de gauche qui me dit qu'il fait de la justice sociale et qui ne supprime pas les franchises médicales qu'il devait mettre et qui va même les ponctionner dans la poche des assurés. Donc, le vilain médecin qui n'a pas conscience qu'il a une charge sociétale, je veux bien. Un médecin, s'il tombe malade... Alors, vous savez, le gros truc aussi, le gros poncif, c'est les médecins, leurs assurances sociales sont payées par la collectivité.
Ah, mais là, j'avais pas prévu, monsieur.
Okay. Quand un médecin tombe malade, il a un délai de carence de 90 jours. Donc, on n'est pas à 2 jours, 1 jour, 3 jours, 90 jours. Donc, dire que des gens qui n'ont pas des avantages salariés, comparer ce qu'ils gagnent, c'est assez malhonnête.
J'aimerais avoir la réaction et peut-être l'arbitrage de l'historien sur cette question, Stanis Pérez.
Alors, mon arbitrage sur une question aussi, contemporaine, sera peut-être un peu superficielle, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une problématique qui existe depuis l'Antiquité. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans cet ouvrage. Entre autres choses, c'est cette interrogation, et la réponse n'est pas simple, quel est le juste prix de la santé ? C'est-à-dire, à un moment donné, qui fixe les honoraires adéquats, dans la mesure où les sources sont multiples, immenses, incommensurables, qui expliquent qu'énormément de malades considèrent que systématiquement, la consultation est trop chère parce qu'ils ne guérissent pas. Et le gros problème concernant les honoraires des médecins dans les campagnes du 19e siècle, mais on imagine bien que c'était déjà le cas dans les campagnes des siècles précédents, est tout simplement de se faire payer. C'est-à-dire qu'on paye un coup à boire, on donne un poulet, des fruits, on règle en nature, si je puis dire. Et le résultat, c'est que le médecin passe pour à la fois quelqu'un qui vend sa science, ce qui est une accusation forte, qu'on retrouve dans les traités médicaux de l'Antiquité, dans des œuvres littéraires du Moyen-Âge. On le compare d'ailleurs aux juristes, c'est-à-dire ils vendent leur science et quelque part, ils vendent quelque chose qui est sacré, qui ne devrait pas faire l'objet d'un marché. Mais en même temps, on a des patients qui sont exigeants, qui ne veulent pas forcément toujours rémunérer ces ordonnances, parce que, il ne faut pas l'oublier, la médecine ancienne est une médecine qui est une sorte d'antichambre de la mort. Et là aussi, il y a un problème. Bien sûr qu'on est capable, et chacun en conviendra, de payer très cher une intervention médicale qui va nous assurer le rétablissement de notre santé, mais quand ça ne fonctionne pas, on se dit qu'on a été volé. C'est-à-dire que la santé n'est pas revenue. Voilà.
Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de retour sur investissement. En tout cas, est-ce que c'est quelque chose, même si j'insiste encore un petit peu, Christian Lehmann nous dit que c'est impensif, en tout cas, est-ce que c'est quelque chose qui accompagne l'histoire de la médecine, d'après vous, Stanis Pérez? C'est-à-dire qu'on attend aussi un engagement à la mesure de l'investissement qui a été fait pour avoir un corps médical éduqué et opérationnel, disons.
Alors, après, ça pose la question du rôle de l'État, des politiques de santé publique et de ce que, par exemple, Michel Foucault appelait la biopolitique, c'est-à-dire comment est-ce qu'à un moment donné, l'État, et ça se met en place au XVIIe et XVIIIe siècle pour être très schématique, comment est-ce que l'État, à un moment donné, met en place un statut qui consiste à dire nous, l'État, les gouvernants, les réformateurs, les experts, nous sommes les garants de la santé publique. Donc, on va mettre en place un certain nombre de contrôles. Vous nous devez la santé, vous nous devez l'offre de soins, l'encadrement de la profession qui va permettre le rétablissement de cette santé, le retour à une forme de normalité biologique. Et on sait très bien que les choses sont beaucoup plus complexes. Quand Guilhem disait « l'homme sain n'est pas sain », c'est-à-dire que on est toujours malade en puissance et même quand on l'ignore, on est quand même malade. On ne peut pas dire que la vie est une maladie, mais on est quand même un petit peu dans cette logique. L'État intervient et les médecins ont systématiquement freiné contre cette intervention de l'État. Quand, à la fin du XVIIIe siècle, se met en place la Société Royale de Médecine, en France, la faculté de Paris fait feu de tout bois en disant « mais on est en train de perdre notre statut libéral, on est en train de devenir, non pas des fonctionnaires, ça n'existe pas à l'époque, mais on perd notre liberté, on ne nous fait plus confiance ». L'un des gros problèmes dans la relation entre l'État et les médecins, depuis au moins la fin du XVIIIe siècle, c'est le problème de la confiance.
Didier Ménard, puisque je vous ai cité tout à l'heure, je vous laisse réagir et peut-être expliciter ce que vous vouliez dire.
Sur ce système, sur ce système que vient d'être appelé, c'est construit un mode de paiement qui est le paiement à l'acte, qui par lui-même comporte plein de vices, puisqu'il a plusieurs inconvénients. D'abord, plus on veut augmenter ses revenus, plus il suffit de faire d'actes, et plus on fait d'actes, moins on fait de la bonne médecine. Donc, quelque part, c'est une prime à la médiocrité. Et deuxièmement, ce paiement à l'acte, il enferme dans le curatif. C'est-à-dire, vous n'avez absolument pas intérêt aujourd'hui dans les missions, puisque votre question, c'est quelles sont les missions? une question fondamentale qui ressurgit sur la manière dont on est payé.
Quand je pose la question de quelles sont les missions, c'est aussi quels sont les devoirs, et j'ai l'impression que vous ne répondez pas vraiment.
Si, les missions...
Même si je comprends que la question vous dérange, mais vous louvoyez un petit peu...
Une question aujourd'hui, est-ce qu'ils ont perdu le sens de leur mission ? Ils ne savent plus trop exactement quelles sont les missions. Et il est là, pour moi, quelque chose d'important. C'est de redéfinir aussi, aujourd'hui, pas dans un débat entre médecins et le gouvernement, mais dans un débat public, qu'est-ce qu'on attend des médecins ? Quelles sont aujourd'hui les maladies ? Et moi, par exemple, je pose la question, est-ce qu'un médecin généraliste aujourd'hui doit faire que du soin ou doit faire de la santé ? C'est-à-dire, il ne soigne plus un organe malade, mais il accompagne une personne sur son parcours de santé. Et donc, il va introduire dans ses missions au quotidien d'autres actions. Coordination du soin, coordination médico-sociale, prévention, éducation... Toutes ces missions qui aujourd'hui n'existent pas, ne sont pas reconnues et qui sont pourtant absolument nécessaires et qui bien sûr ne peuvent pas être payées à l'acte. Donc il faut payer au forfait d'une autre manière aujourd'hui les médecins. Donc la vraie question c'est comment payer les médecins.
Vous qui démarrez dans le métier, Jessica Guibert, est-ce que ce sont des questions que vous vous posez déjà ou pas encore ?
Ah bah bien sûr, et puis depuis longtemps. En fait, j'ai l'impression que ces questions à la fois du paiement à l'acte, c'est-à-dire le paiement à l'acte, c'est pas le problème du paiement en tant que tel, c'est le problème, c'est que ça influence en fait énormément le contenu du travail. Ça fait un travail découpé, ça fait un travail effectivement essentiellement curatif avec des consultations courtes. Et effectivement, ça permet d'éviter complètement la réflexion sur le niveau de rémunération que devrait avoir un médecin généraliste, qui devrait être une réflexion de société. J'ai l'impression aussi qu'il y a un vrai paradoxe sur ce statut libéral historique et actuellement le paiement des soins par un système de solidarité nationale. Et du coup, on a des médecins libéraux qui défendent des libertés, en tout cas pour moi, qui sont pas vraiment des libertés, qui sont en tout cas une dérégulation, quoi.
Est-ce que pour vous, Jessica Guibert, le fait de choisir le statut de salarié, au-delà peut-être du confort pour la vie personnelle que ça procure, c'est-à-dire c'est aussi une façon d'avoir une vie de famille peut-être un petit peu plus stable que quand on est un médecin libéral, mais est-ce que c'était aussi une façon de répondre davantage aux missions qui sont celles du médecin généraliste selon vous ?
Alors, plusieurs choses. Déjà, je voudrais rappeler quand même que dans le statut libéral, on est quand même censé pouvoir choisir ses horaires, justement. Donc, c'est quand même... Enfin, sur cette question de la vie extérieure et tout ça, c'est pas forcément le statut salarié qui est finalement le plus souple. Après, pour moi, le statut salarié, il a un gros avantage. C'est celui de s'extraire du paiement à l'acte. C'est-à-dire que moi... Mon salaire à la fin du mois ne dépend pas du nombre d'actes que je fais et c'est pas moi qui gère les questions d'argent directement avec les personnes. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un confort, c'est quand même un grand confort. En plus, les centres de santé ont l'obligation de faire le tiers payant généralisé, eux, contrairement aux libéraux. Et donc voilà, c'est quand même, je trouve que c'est quand même important de travailler dans ces conditions-là.
Alors, on va laisser réagir Christian Lehmann.
Alors, d'abord, moi, j'ai expérimenté le paiement à la capitation, hors du paiement à l'acte, le médecin référent. C'était effectivement la possibilité de prendre des gens sur le long terme, dans leur globalité, d'avoir une formation indépendante de l'industrie pharmaceutique, de faire le tiers payant généralisé. Tout ça, ça a été balayé du jour au lendemain par l'État. Donc ensuite, parler de... Est-ce que les médecins ont confiance en l'État ? Je veux dire, quand vous vous faites avoir une fois, vous n'avez pas forcément envie de le faire deux fois. Deuxièmement, j'ai absolument rien contre le statut de salarié. Mais le problème, c'est que... Le centre de santé militant qu'a monté Didier, comme le centre de santé dans lequel travaille Jessica, comme tous les centres de santé du pays, sont déficitaires. Ils sont déficitaires parce qu'à 23 euros la passe, excusez-moi, puisque vous êtes contre le paiement à l'acte, à 23 euros la passe, ça ne tient pas, ce n'est pas possible de le tenir. Donc, c'est payé par des subventions de certaines mutuelles, des subventions de certaines municipalités. On a un centre de santé municipal qui est tenu à bout de bras par la municipalité dans la ville dans laquelle je suis, Conflans-Sainte-Honorine. Il faut être clair que ce n'est pas les 23 euros qui payent ce qui est donné. C'est-à-dire que c'est la municipalité qui paye. C'est-à-dire que chaque citoyen, de manière occulte et invisible, paye une partie du soin. Donc pour le médecin qui est salarié, Il se dit, ben, c'est bien parce que je peux aller à ma vitesse, je peux effectivement prendre le temps, ça c'est l'image idéale. Le problème c'est que moi j'aimerais bien faire autre chose que d'enquiller des actes 30 fois par jour. J'aimerais pouvoir faire de l'éducation thérapeutique en disant à mes diabétiques, ben, venez à 5 ou 6 dans le cabinet en même temps. On va passer une heure à vérifier comment vous vivez votre insulinothérapie, votre diabète. Peut-être que vous allez échanger des données sur la manière dont vous mangez, comment vous avez évité de faire des hypoglycémies en fractionnant les doses, etc. et tout. Mais si je fais ça, c'est pas difficile, je ne mange pas. Donc, il y a plein d'idées extraordinaires sur la manière de travailler qui ont été abandonnées par l'État. Car je suis clair, quand ils ont détruit l'option médecin référent, ils ont poignardé dans le dos la médecine générale. Et aujourd'hui, ces idées formidables sont en train d'être prises par qui ? Par les assureurs, qui veulent faire du coaching, qui veulent faire des objets connectés, qui veulent faire de l'éducation thérapeutique à visée financière.
Cette résistance que vous évoquez, Christian Lehmann, dont vous dites que c'est une résistance, en tout cas, il y a un changement d'attitude et de promesse de la part de l'État, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une résistance interne à la Corporation des médecins? Là, je me tourne à nouveau vers notre historien Stanis Perez, même si vous remontez loin, évidemment, dans votre histoire des médecins, mais vous vous intéressez aussi à la période contemporaine, et vous évoquez cette perte de statut dans la société pour les médecins, une forme de désacralisation. Est-ce que la résistance qui peut être existe aussi du côté des médecins, elle ne s'explique pas par cette désacralisation de la fonction?
Désacralisation de la fonction, c'est incontestable. Je crois qu'on pourrait trouver de nombreux parallèles avec d'autres professions qui vivent cette désacralisation.
Vous faites le parallèle, vous, avec le corps enseignant?
Oui, je suis bien placé pour le faire, mais je dirais que même dans un certain nombre de professions qui sont censées représenter, j'allais dire, l'État souverain ou la souveraineté de l'État, donc quand même quelque chose que... des professions qui ont une fonction d'encadrement, une fonction de lien social, de stabilité, on a exactement la même impression. Alors, concernant les malades, oui, on parle de marchandisation du corps, parce qu'il y a une désacralisation du corps en même temps. Donc, s'il y a une marchandisation du corps, il y a forcément une désacralisation du rôle du médecin, parce que, de deux choses l'une, ou bien on considère que la santé, c'est quelque chose de sacré, c'est-à-dire que c'est un bien qui doit être mis à part. Il y a un certain nombre d'économistes dans les années 60-70 qui expliquent aux États-Unis ou ailleurs, hein, donc même aux États-Unis, même des penseurs du libéralisme économique, mais qui expliquent que pour que le marché puisse fonctionner, il faut qu'il y ait des choses qui soient hors marché, hors échange financier, numéraire. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, dans cette société, il y ait des éléments qui soient mis précisément hors d'atteinte d'une simple négociation. Et là, les médecins sont confrontés à cette marchandisation du corps. On leur demande de faire du chiffre, comme on peut demander aux enseignants de faire du chiffre, si vous me passez l'expression, à partir de taux de réussite, à des examens, en disant on ne peut plus tolérer le redoublement, de la même façon qu'on va dire aux médecins on ne peut plus tolérer des arrêts de travail intempestifs, excessifs, parce que ça coûte de l'argent. La suppression, par exemple, hein, je donne cet exemple qui n'est absolument pas anecdotique, la suppression progressive du redoublement, sous prétexte de faire des économies, me fait étrangement penser, parce que historiquement je crois qu'il y a une cohérence, à la réticence, ou en tout cas à l'action de l'État qui consiste à dire aux médecins attention aux arrêts de travail abusifs parce que ça coûte de l'argent.
Didier Ménard.
La question, c'est aujourd'hui, je reviens un peu à la question de la mission, c'est est-ce qu'effectivement on est dans une rôle, on confond maladie et santé, on confond en permanence. La santé, ça se réduit pas à la maladie. Aujourd'hui, on est des professionnels médecins, mais on est des professionnels de la santé. C'est-à-dire que notre mission, c'est plus comme avant, quand il y avait les maladies essentiellement infectieuses, un diagnostic, un traitement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe. Et cette complexité des maladies chroniques, dans des situations où le médico-social intervient en permanence, où la question sociale vient de le dire, mais la question psychologique, la question culturelle, tout ça vient interférer, nous, on se prend ça en pleine figure. Et donc, on a une mission qui n'est pas simplement de faire un diagnostic, d'élaborer un projet thérapeutique, mais un projet thérapeutique dans lequel le patient va se retrouver parce qu'il est un élément essentielle de la réussite du projet thérapeutique.
Et vous avez l'impression que ce rôle-là n'est pas reconnu,
et
n'est
bien,
pas suffisamment
pour ce reconnu rôle-là, pour ce rôle-là, aujourd'hui, un médecin qui exerce tout seul, il est mis en difficulté parce que tout seul, on ne peut pas faire. Donc la question essentielle, c'est quel système, quelle organisation du système on a besoin aujourd'hui pour répondre aux missions. Et moi qui suis un grand militant des maisons de santé et des centres de santé, je pense qu'aujourd'hui l'enjeu, c'est le passage de l'exercice isolé à l'exercice plus collectif pour pouvoir mutualiser des compétences qui nous permettent de mieux répondre aux besoins de santé. Un bon système, c'est celui qui répond aux besoins.
Oui, mais l'exercice isolé, c'est assez constitutif de ce qu'est le médecin moderne, Christian Lehmann. Peut-être pas avec les nouvelles générations,
non,
enfin, en tout cas.
Non, peut-être pas avec la nouvelle génération, mais je vais répondre à Didier. Tu me l'as dit tout à l'heure avant qu'on commence. Le système que tu as mis en place, qui est un système pérenne avec des gens que vous aidez et tout, dépend de subventions autres que le soin. La consultation paye un tiers du fonctionnement de ton système. Et c'est la même chose pour tous les gens qui ont fait une expérimentation de centre de santé ou de maison de santé. Donc l'État est en train de dire la solution à la diversification, c'est les maisons de santé, mais l'État enlève ses dotations partout. Donc demain, elles seront rachetées par la MGEN, par AXA, par Allianz, et on aura un système qui aura été vendu aux mutu-assureurs par petits morceaux, et on aura un système à l'américaine. En fonction de ta carte, tu verras comment tu seras payé. On a dit tout à l'heure, tu as dit tout à l'heure, le médecin c'est un artisan...
Là vous adressez à Stanis Pérez.
Oui, pardon. Le médecin c'est un artisan ou un artiste de la santé. Artiste c'est un très grand mot. C'est un artisan de la santé, en tout cas ce que ce n'est pas, c'est un exécutant. Un exécutant de ce que dit l'État, si l'État dit de faire quelque chose qui est contre le patient. Il y a un exemple qui est très parlant. Les arrêts de travail soi-disant injustifiés. Pendant des années, on connaissait les chiffres des arrêts de travail qui étaient litigieux, dans lequel le médecin conseil n'était pas en accord avec le médecin. Il était de 2%. Sous Sarkozy, il y avait Frédéric Van Rokkegem, ancien directeur d'AXA, qui a été nommé à la Sécu, et d'un seul coup, ça a monté à 12%. Quand vous êtes devant votre radio et que vous entendez qu'il y a 12% d'arrêt de travail injustifié, vous dites « salaud de médecin qui... » Or, la réalité, c'est que ces chiffres sont faux. Il y avait une magouille, je ne vais pas l'expliquer longuement, mais il y avait une magouille qui faisait que lorsque les gens venaient pour être contrôlés par le médecin conseil, par exemple, ils étaient arrêtés du 12 au 15 mars, le médecin conseil disait « bah ok, vous êtes arrêté, vous reprenez demain, ok ?» Et entrait un document qui disait « je suis en désaccord avec une prolongation au-delà du 16 ». Et ça rentrait des arrêts de travail virtuels qui n'avait jamais existé, rentrer dans le dossier des 12% d'injustifiés. Le combat du médecin militant, c'est aussi protéger son patient des petits arrangements de l'État avec la vérité.
Jessica Guibert, vous vous sentez quoi aujourd'hui? Davantage exécutante que militante ou inversement? Est-ce que ces deux mots-là, en tout cas, résonnent d'une manière particulière chez vous?
Oui, en tout cas, moi je me sens plus militante, mais aussi parce que je participe à un projet de création d'un centre de santé communautaire. Donc voilà, moi je pense qu'il y a un vrai problème effectivement de sens dans le contenu du métier de médecin. Parce qu'on est quand même, enfin j'ai l'impression qu'il y a paradoxalement un pouvoir médical qui est quand même très fort et qui fait qu'en tant que médecin, on se retrouve face à des personnes globales et une santé qui est effectivement globale avec énormément de déterminants, et que la seule chose qu'on sache faire par rapport à ça, c'est de mettre les gens dans des cases, c'est de faire des diagnostics et de donner des médicaments. Et que, enfin, et voilà, et que du coup, on se retrouve à être finalement un espèce d'instrument de la médecine et de la médicalisation de la société, alors que, en tout cas, moi, j'ai l'envie, et je pense que c'est vraiment ça l'idée, c'est que, au lieu d'être réellement au service d'une population et de personnes, et effectivement, le financement du système de santé, les conditions de travail des médecins, tout ça pousse à ce que le médecin ne fasse que ça, en fait, ne fasse que mettre les gens dans des cases, des diagnostics et donner des médicaments. Et du coup, j'ai l'impression que ça pose quand même un gros problème. Et enfin, en tout cas, moi, ça me met vraiment mal à l'aise. Et c'est pour ça que j'ai envie de participer à des projets qui voient un petit peu la santé autrement, de manière plus globale, que j'ai envie de participer à, voilà, à aller dans les écoles, discuter de santé des enfants, à des choses comme ça, en fait. Voilà.
J'ai en permanence la sensation de nez bouché, à tel point que ma vie est devenue un enfer. J'ai mal à la tête, je dors mal, je perds le goût et l'odorat. Mon médecin me propose de désintégrer au laser mes cornets qui seraient trop gros. Je voulais avoir votre avis.
Alors, docteur Aydan, qu'est-ce que c'est que cette histoire de cornets désintégrés au laser? Alors, d'abord, la première chose, c'est de savoir effectivement pourquoi Julie...
Voilà, court extrait qu'on a trouvé sur Internet, sur le site Doctissimo, qui est une des références pour les internautes, soit avant d'aller chez le médecin pour essayer de diagnostiquer avant leur interlocuteur ce qu'ils ont, soit pour vérifier si ce que leur médecin leur a bien dit. Est-ce que ça, c'est un changement que vous avez pu noter, Didier Ménard? C'est-à-dire, finalement, quand on parle aussi des rapports entre le médecin et la société, forcément, on parle des rapports entre le médecin et les patients. Est-ce que les patients ont une approche de plus en plus utilitariste de la médecine, et notamment de la médecine générale?
Pourquoi utilitariste tout de suite? Non, ils ont une meilleure connaissance. Ils ont une meilleure connaissance. Et donc, après, tout se joue dans le dialogue. La médecine, c'est un métier de dialogue.
Ouais, enfin, j'ai vu des médecins chez qui, avec qui le dialogue était quand même extrêmement compliqué, et il m'est arrivé moi-même, étant malade, d'anticiper un petit peu ce que pouvait être ma maladie.
Le corps médical n'est pas homogène. Il est complètement hétérogène. On se bat à l'intérieur, il y a des mouvements assez violents de contestation, de pratiques médicales avec lesquelles on est en désaccord total, et notamment les médecins qui ne sont pas dans le dialogue, les médecins qui ne discutent pas, qui n'expliquent pas. Voilà. Après, nous formons aussi des jeunes médecins aujourd'hui, c'est un enjeu effectivement très important. Si vous cherchez des situations où le médecin a été odieux avec son patient, a refusé la CMU, vous allez en trouver.
Non, mais ça peut être l'inverse, hein. Attention, je ne dis pas c'est le médecin qui est odieux avec le patient.
Il y a des médecins qui sont dans le dialogue.
Il y a des patients qui sont...
Chaque patient est singulier. Notre système à nous, notre métier à nous, et si on est des artistes, c'est de la capacité d'avoir une réponse à la singularité.
Alors, ma question, c'était plus en termes d'évolution. C'est-à-dire, est-ce que vous, par exemple, Christian Lehmann, vous avez vu le regard des patients évoluer sur votre pratique et sur votre statut?
Ma réponse est non. Ma réponse est non. C'est-à-dire que moi, je trouve ça très bien que les gens puissent avoir accès à un tas d'informations médicales, mais il en va des informations médicales comme les informations scientifiques ou comme les informations politiques. Une fois que vous avez cette masse-là, à qui vous faites confiance quand vous entendez des choses totalement différentes? Ok. Et ben, un jour, vous vous retrouvez devant un homme et une femme avec qui vous avez construit une relation pendant 5, 10, 15 ans, etc., en disant « j'ai ça, ça, ça ». J'ai pensé que ça pouvait peut-être être ceci. Eh bien, on en discute, mais peut-être que c'est une super bonne idée auquel j'aurais pas pensé. Je me demande si ce serait pas éventuellement ma thyroïde. Ah bon, tu as perdu du poids, on discute. De toute façon, au bout du compte, ça va être une négociation. Parce qu'on va pas rentrer chez eux à 23h avec le pistolet sur la tempe pour être sûr qu'ils ont bien pris leur lévothyrox. Donc ça ne sert à rien d'être dans la toute puissance dans le cabinet, si j'ose dire, en disant taisez-vous, voilà l'ordonnance, donnez-moi l'argent. Si au bout du compte, on n'a pas négocié avec les gens le fait qu'ils se disent... Ah ben tiens, oui, j'aurais pas pensé, mais je vais essayer, je vais faire un traitement d'essai pendant 15 jours et on va se revoir. Donc, moi, ça me gêne pas que les gens aient droit et accès à l'information. Ce qui me gêne, c'est qui paye cette information. Qui paye cette information quand pendant des années, la Société française d'urologie faisait des campagnes de publicité en disant aux gens, il faut que vous fassiez un toucher rectal et un dosage du PSA tous les ans parce que sinon vous allez mourir. Alors qu'on savait très bien que c'était faux. Quand Pfizer faisait des publicités pour inciter les gens à doser le cholestérol et à prendre des médicaments quoi qu'il arrive, sinon ils allaient mourir. Le travail du médecin, c'est d'être le rempart du patient qui est en face de lui contre les intérêts financiers et économiques qui sont autour. Et ça, je pense que les patients l'ont intégré quand ils sont dans un rapport de confiance avec un ou une médecin.
Jessica Guibert, vous n'êtes pas davantage gênée quand un de vos patients vient avec un certain nombre de certitudes sur la maladie qu'il conduit jusqu'à vous?
Non, pas du tout. Non, je trouve que même ça fait vraiment un support à la discussion du coup qui est très intéressant. D'ailleurs, les gens n'ont pas besoin d'aller sur Internet pour avoir des certitudes sur ce qu'ils ressentent. Et finalement, c'est un point de vue, leur point de vue est tout aussi intéressant et entendable que celui du médecin sur leur maladie, en fait, ou sur leur santé. Donc, non, moi, je ne suis pas du tout gênée. Effectivement, je pense quand même que le rôle du médecin généraliste dans ça, c'est de démédicaliser, en fait. C'est-à-dire, on a énormément de publicités partout sur la santé, effectivement financées par avec des intérêts économiques, industriels, etc. Et voilà, je pense vraiment que le rôle du médecin, c'est d'essayer de limiter l'impact de cette médicalisation de la société. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas l'impression qu'il y soit incité, malheureusement.
Stanis Pérez, sur l'évolution du rapport entre médecins et patients. Est-ce que là aussi, l'historien que vous êtes a pu constater des évolutions assez fortes? Et est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à imaginer une médecine sans médecin? Est-ce que l'avenir, ça serait imaginable comme celui-là? Puisque à la fin de votre ouvrage, vous faites un peu de science-fiction.
Oui.
Vous imaginez ce que ça pourrait donner
oui,
par la
fait.
Suite. Et on est presque dans cette idée-là.
Mais
dans
c'est apocalyptique. Ce que j'imagine, j'espère me tromper, c'est-à-dire c'est la disparition de la médecine libérale. Sur la longue durée...
Pourquoi ce sera apocalyptique?
Je ne sais pas. Poser la question au médecin, ce n'est pas non plus ma profession. Mais je pense que pour le malade, on perdrait... Le dialogue qui vient d'être évoqué, hein, Christian l'a très bien expliqué. On perd le dialogue, on perd le geste. Moi, j'ai été frappé quand j'ai réalisé cet ouvrage de voir, encore une fois, sur la longue durée. Parce que je pense que l'histoire peut permettre aussi de faire la synthèse d'évolutions transpériodiques, transsociétales, etc. Les représentations dans la Grèce antique du médecin sont assez systématiquement des représentations qui montrent un homme assis, âgé, il a une barbe parce que c'est un philosophe, et face à lui, il a un patient, et il y a un échange de regards, et il y a un geste. Ce regard, ce geste, ce dialogue, qu'on peut connaître grâce au texte, tous les philosophes de l'Antiquité parlent du médecin en disant, voilà, il est fondamental. Cicéron pleure la mort, par exemple, de son médecin. Sénèque dit, mais le bon médecin doit devenir un ami. Il y a un dialogue. S'il n'y a pas ça, on perd quelque chose d'important, et c'est le sentiment de l'humanité. À la base, au fondement de l'intervention médicale, il y a une écoute. On écoute et on reçoit l'humanité, entre guillemets, souffrante, qui vient demander quelque chose de très important, de vital. Alors, après, c'est vrai qu'il y a tout le débat sur l'automédication, mais qui est un débat ancien. Dès l'invention de l'imprimerie, à la fin du XVe siècle, on voit apparaître parmi les premiers imprimés médicaux les autorités classiques, alors Hippocrate, Galien, en grec, très bien. Bon. Mais très rapidement, des ouvrages qui expliquent au malade, qui n'est pas un patient et qui ne veut pas être un patient parce qu'il ne veut pas payer des honoraires, des ouvrages où on dit, ben voilà, vous allez vous soigner vous-même. Vous avez telle maladie, il faut prendre des herbes, voilà, des minéraux, des parties d'animaux, etc. Tout le folklore médical. Mais surtout, on est dans ce rapport à soi qui consiste à dire « Je peux aussi, puisque j'ai acheté cet ouvrage, aujourd'hui c'est Internet, c'est Doctissimo, mais finalement ça a toujours existé, au moins. On a même des manuscrits médiévaux qui vont dans le même sens, c'est-à-dire les souverains se font faire des listes de remèdes, de symptômes, voilà, donc on a telle maladie, ça veut dire qu'il faut employer tel ou tel remède, sans passer par un médecin. » Parce qu'il y a une méfiance, parce qu'il y a aussi une mesure d'économie. Et on appelle ces ouvrages au XVe, XVIe, XVIIe siècle des trésors, et souvent les trésors des pauvres. C'est-à-dire, l'ouvrage est un trésor parce qu'il contient des remèdes qui vont vous permettre d'économiser de l'argent, parce que vous n'aurez pas besoin de passer par un charlatan, un empirique, un médecin qui n'est pas compétent, et vous allez retrouver votre santé tout seul. Au XVIIIe siècle, ce sont des dictionnaires médicaux, et ça existe encore. Dans les supermarchés, on a quand même quantité de publications qui... ou bien sont dans le sens de la prophylaxie, comment éviter de tomber malade, ou alors dans le sens du remède qu'on va soi-même, non pas préparer à la maison, mais quand même qui fait déjà une démarche, hein, ou qui anticipe sur la démarche médicale.
Oui, en tout cas, c'est tout l'intérêt de votre livre, Stanis Pérez, que de montrer que, même si les problématiques qui sont dans l'actualité sont évidemment très singulières, mais on peut en tout cas retrouver un certain nombre de thématiques dans toute l'histoire de la médecine, que je vous invite donc à découvrir à partir de demain chez Perrin, Histoire des médecins, artisans et artistes de la santé de l'Antiquité à nos jours. Merci beaucoup à nos trois médecins. Parfait à tout point de vue, hein. Ce soir, Christian Lehmann, Didier Ménard et Jessica Guibert. Merci à vous d'avoir participé à cette discussion. Je vous précise que sur notre site internet franceculture.fr, la page du Grand Moudre, on vous propose une interview bonus. Nicolas Ignatieff est allé à la rencontre d'étudiants en médecine qui lui racontent, ce sont des étudiantes d'ailleurs, qui lui racontent ce qu'elles pensent de la représentation des médecins dans la fiction, à la télé et au cinéma. Voilà, demain, à quelques jours des élections départementales, nous poserons la question suivante. L'UMP a-t-elle beaucoup à perdre ?